Franche culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30, le premier jeudi du mois, sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche culture, une nouvelle émission sur Radio Campus. C'est la première aujourd'hui, au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus, si affinité. Au micro, nous sommes 7 chroniqueurs à fouiller, à fouiner, à dégoter les perles culturelles de la région, 7 dont la seule motivation sera la curiosité. Autour de la table, avec moi aujourd'hui, Isabelle.
La culture, c'est la vie et j'ai envie de la partager sous toutes ses formes.
Cécile.
Alors moi, j'avoue avoir un faible pour la peinture, mais pas que, je vous présenterai aussi plein d'autres sujets.
Minouche.
Mon domaine, ce sera les interviews des acteurs de la vie culturelle en Anjou.
Marie.
Alors moi, j'aime les arts plastiques, mais pas seulement.
Dominique.
Eh bien, je vous parlerai de mes passions, c'est l'architecture, le patrimoine et les paysages.
Bénédicte 1.
Moi, je suis du sud de l'Anjou et je veillerai à ce que la culture ne soit pas uniquement à Angers.
Voilà, et Bénédicte 2, moi, ce sera les chroniques tous azimuts. Mais aujourd'hui, dans Franche Culture, on reste à Angers. Au programme, le festival de la BD avec Minouche. Ensuite, on ira au château d'Angers avec Marie et son invité. Et puis pour finir, focus sur notre bon roi René avec notre expert patrimoine Dominique Latron, ancien architecte des bâtiments de France.
La palette de couleurs.
Et tout de suite, on commence avec vous, Minouche, la 22e édition du Festival BD à Angers.
Pour cette 22e édition du Festival de bande dessinée d'Angers, j'ai joint Éric Boutier, organisateur du festival. On l'écoute nous parler de cette nouvelle édition. Éric Boutier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'organisation du Festival de BD qui va se tenir à Angers les 4 et 5 décembre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce festival qui, je crois, va être à sa 22e édition ?
Voilà, tout à fait. Ça fait plus de 20 ans maintenant que nous sommes tous les premiers week-ends de décembre au Centre des Congrès pour le Festival Angers BD.
Il se déroule sur 2 jours au Centre des Congrès et puis je crois qu'il se poursuit ailleurs dans le département.
Voilà, tout à fait. Donc 2 jours de dédicaces, de présence d'auteurs sur le salon au Centre des Congrès, mais sinon un off du festival la veille, donc là le vendredi 3, et puis des expositions décentralisées que je visite dans des médiathèques de la région.
Si vous le voulez bien, on va commencer par le off du festival le 3 décembre. Ça se passe où, c'est quoi?
Donc c'est un partenariat qui a été passé avec le cinéma Les 400 coups pour une projection en avant-première du film de Pascal Rabaté qui s'appelle Les 100 dents.
Les 100 dents. Pourquoi un film de Pascal Rabaté?
Alors il se trouve que Pascal Rabaté a plusieurs casquettes, mais à la base il est surtout auteur de bande dessinée et il aura d'ailleurs une nouveauté sur le salon qu'il dédicacera les 2 jours.
Donc voilà l'explication. Et dites-moi, j'ai vu l'affiche, je trouve que l'affiche de ce festival est superbe, vous pouvez nous parler de l'auteur?
Alors cette affiche cette année a une touche féminine, il s'agit de Virginie Augustin qui a souhaité mettre l'accent en plus du château sur l'ambiance autour des tapisseries de l'Apocalypse, d'où cette ambiance un peu religieuse.
Je conseille à nos auditeurs de repérer l'affiche que je trouve personnellement très belle. Et si je viens les 4 et 5 décembre au Palais des Congrès, j'ai rencontré qui?
Alors, le public pourra rencontrer 45 auteurs qui viennent d'un peu partout en France. Une douzaine sont de la région. Il y aura quelques auteurs belges aussi, de renommée. Pour tout public.
Pour les jeunes aussi? Pour les enfants?
Oui, tout à fait.
Pour tout le monde. Et tous les styles de BD?
Tous les styles de bande dessinée. Même des jeunes auteurs auto-édités ou des fanzines.
Et dites-moi, je crois qu'il y a un prix, le prix Première Bulle, qui est remis pendant ce festival. Vous pouvez nous en parler?
Oui, chaque année, en fait, le festival met en avant le travail d'un jeune auteur sur un premier album et donc remet un prix qui s'appelle le prix Première Bulle. Cette année, donc, nous allons remettre le prix 2021, mais seront présents 3 auteurs du prix Première Bulle, des trois dernières éditions, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on décerne un prix à un jeune auteur, l'année suivante, il a une exposition. Or, en 2019, on a élu Elliot Rimbaud pour Les Tambours de Sabbatica, mais il n'a pas pu avoir d'exposition. Et l'année dernière, Joris Mertens eut le prix avec son album Béatrice, son très bel album Béatrice, qui est sans texte. Et donc, ces deux auteurs et le nouveau prix Première Bulle auront une exposition sur le salon.
Quand est-ce qu'on va connaître le prix Première Bulle pour cette année ?
Ah, donc, à chaque fois, nous l'annonçons lors de l'inauguration, c'est-à-dire le 4 vers midi.
Vous voulez pas faire une petite primeur pour les auditeurs de Radio Campus ?
Non, c'est pas possible.
Rien à faire. Bien, et dites-moi donc la suite de ce festival dans les différents endroits. Vous pouvez nous en parler aussi ?
Alors, et les expositions ne sont pas présentes uniquement sur le salon le 4 et 5 décembre. Il y en a 5, dont les expositions du travail des auteurs Première Bulle. Mais il y a aussi des expositions décentralisées qui, certaines, durent jusqu'à fin décembre ou fin janvier. Notamment une exposition sur le travail d'Éric Juzzac sur son dernier album qui s'appelle P12, qui sera au Centre Diocésain. Et trois expos, dont deux seront dans des médiathèques, la médiathèque de Beaucouzet, sur une expo du travail de Pierre Allary, à celle de Muret-Rigné, pour le travail de Christian Paty, et puis à la galerie Rive d'Art des Pompées, on accueillera un auteur local, pour une rétrospective et une présentation de son dernier album qui s'appelle Boris Beuzelin.
C'est parfait tout ça. Si on n'a pas bien retenu tous les endroits, où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur ce festival ?
Alors, on peut trouver toutes ces informations sur la page Facebook du festival, la page AngBD, ou sur le site AngBD.
Bah écoutez, Éric Boutier, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je souhaite bonne chance à ce festival, beaucoup d'entrées. Et merci de nous avoir accueillis.
Merci à vous. Donc on vous attend nombreux les 4 et 5 décembre au Centre des Congrès.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Voilà, c'était le Festival de la BD, 4 et 5 décembre prochain au Palais des Congrès. Évidemment, à ne pas manquer, toutes les infos sur angersbd.com. Et tout de suite, on écoute Gaël Faye, qui sera à Angers au Shabada, le 10 décembre prochain.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorités en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. Oh.
Why you holding on to your bones? Holding on to what you know. We won't make the same mistakes. Stakes how we claim our fate. Why you holding on to your bones? Holding on to what you know. We won't make the same mistakes. Stakes how we claim our fate. Why you holding on to your bones? Holding on to what you know. We won't make the same mistakes. Stakes are how we clean my pain.
Vous finirez seuls et vaincus.
On est toujours sur Radio Campus avec Franche Culture et tout de suite rendez-vous au Château d'Angers pour un grand Noël avec magie et sorcellerie. On va se faire peur, Marie.
On va essayer de se faire peur, Bénédicte, en commençant par chercher quelle sorcière ou sorcier sommeille en nous. Au Château d'Angers, c'est le grand Noël, des festivités durant tout le mois de décembre. Et pour en parler avec nous, Emma Fontenot. Emma, bonjour.
Bonjour Marie.
Alors, vous êtes chargée des publics jeunes et de la communication digitale. On va commencer par le week-end des 10, 11 et 12 décembre. C'est la Belle Échoppe, une sorte de marché de Noël, mais en très, très grand. Alors, Emma Fontenot, pouvez-vous nous présenter quelques animations, en commençant peut-être par le spectacle de Fauconnerie?
Et oui, donc ce marché de Noël, il va être également entouré par plein d'animations et de spectacles. Et donc en effet, il y aura un campement de fauconnerie dans le château. Et on pourra également assister à des vols des oiseaux, des rapaces, et puis venir aussi rencontrer les fauconniers.
Alors c'est ce week-end-là, entièrement? Les,
oui,
10, 11 et 12.
10, 11 et 12 décembre, exactement.
Alors autre spectacle qui m'a un peu interpellée, il y a un orchestre?
Oui, on va accueillir les élèves du conservatoire à rayonnement régional d'Angers qui vont nous proposer dans la galerie de l'Apocalypse des concerts au cuivre ou aux percussions et donc qui vont réinterpréter des thèmes phares de John Williams ou des airs de Noël.
Alors les thèmes phares de John Williams, c'est un compositeur de musique de film.
Exactement.
Voilà, on va se retrouver dans le cinéma. Autre exemple d'animation, le jeu d'échecs.
Oui, alors on va pouvoir jouer avec l'association L'Échiquier Angevin, qui fête cette année d'ailleurs ses 100 ans. Ils vont venir avec un échiquier géant et donc on va pouvoir apprendre à jouer aux échecs en version XXL.
D'accord. Alors une autre animation qui vous paraît importante de mettre en avant?
Eh bien, on va pouvoir ouvrir le château en nocturne. On sait que c'est toujours très apprécié des Angevins, avec par exemple un spectacle de cracheurs de feu, et puis toute une mise en lumière du château, et même un show son et lumière, show laser et mapping sur les façades à l'intérieur du monument.
Donc on reste à l'intérieur du monument. Cette année, il n'y aura pas d'animation à l'extérieur.
Tout
pour
est
ça.
À l'intérieur du monument. Oui,
alors, quand on dit en nocturne, c'est à partir de
À partir de la nuit tombée.
D'accord.
Et puis, le château fermera à 21h30 le vendredi et le samedi.
D'accord. Donc, possibilité d'aller tard se détendre au château. Alors, pas de marché Noël sans échoppe, puisque ça s'appelle la Belle Échoppe. Il y a un marché de créateurs régionaux.
Oui, un marché qui est organisé par la Fabrique Imaginaire, qui a sélectionné une trentaine de créateurs, donc en effet de la région, avec des savoir-faire vraiment parfois très originaux, comme la marqueterie de paille. Et donc, on va retrouver plein de choses pour gâter ses proches. Ça va de la déco à l'univers de l'enfant, des bijoux, du prêt-à-porter, également des choses autour des métiers de bouche. Donc voilà, vraiment une variété, une diversité de créations.
Alors on le trouve où ce petit marché de Noël de créateurs?
Alors ce marché qui n'est pas si petit que ça.
Non, parce que 30 c'est pas mal, oui effectivement, c'est pas si petit que ça.
Il se trouve dans la chapelle du château, avec tout un décor et une mise en scène qui sera faite par la Fabrique Imaginaire et puis par d'autres partenaires décorateurs, et également au premier étage du logis du gouverneur.
D'accord, donc c'est on va au fond, sur la gauche quand on rentre.
Oui, tout ça sera très bien indiqué sur le parcours.
On n'en doute pas. Donc, et on n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel de l'essentiel, c'est breuvages et collations.
Alors oui, on pourra venir se restaurer. Alors, d'une part, dans le restaurant du château Monument Café, qui va se mettre un petit peu à l'heure anglaise.
Oui, qui est déjà là, lui, qui est dans le logis.
Exactement, voilà. Mais qui revoit entièrement sa carte pour se glisser dans notre thème magie et sorcellerie. Donc, vous pourrez venir déguster des breuvages, par exemple la célèbre bière dont on ne doit pas prononcer le nom. Il y aura également des food trucks dans le château.
Oui.
Et puis, il y aura une offre de restauration à l'extérieur du château avec un food bus qui sera promenade du bout du monde.
D'accord, alors c'est important quand même parce que ces journées, en fait, elles peuvent être
très complète. On peut passer vraiment une journée au château. Non, allez-y.
On estime le temps passé dans le monument entre 1 et 3 heures.
D'accord, donc 3 heures, il faut qu'il y ait à manger. Indispensable.
Voilà, exactement. Il y aura de quoi boire, grignoter, du salé, du sucré, du à emporter aussi. Voilà, donc on a vraiment la possibilité de se faire plaisir.
De se faire plaisir. Alors, on l'a compris, le thème, c'est magie et sorcellerie. Un thème largement inspiré de l'univers d'Harry Potter. Vous espérez toucher tous les publics avec ce thème ?
Alors, c'est vraiment un événement qui a destination, oui, de tous les publics, public familial, jeunes adultes. Et entre les animations et aussi le marché, il y a vraiment tous les âges qui peuvent s'y retrouver.
Harry Potter, tout le monde connaît maintenant, hein.
Oui, je crois.
Voilà. Alors, c'est la 3e édition de cette belle échoppe au Château d'Angers. Emma Fontenot, c'est assez récent, finalement. Et on est soumis aux nouvelles contraintes sanitaires. Il faut impérativement réserver pour se rendre à ce Grand Noël.
Oui, on attend beaucoup de monde. Donc, évidemment, il y a...
Mais ça a déjà eu beaucoup de succès, les autres éditions.
Exactement.
Succès.
Il y a déjà eu beaucoup de succès pour la première édition. La 2e édition était en digital, puisque le monument était fermé. Donc là, on attend beaucoup de monde. Les places sont limitées. Donc oui, on conseille fortement de prendre sa place à l'avance sur notre site internet ou en venant aussi l'acheter à la caisse du château. C'est
voilà,
possible de venir sur place.
Il y a déjà des animations qui sont réservées ?
Alors, il y avait uniquement 2 animations qui étaient sur réservation, qui sont complètes, mais on en a 17 autres
qui seront
accessibles une fois que vous serez rentré dans le monument.
Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors, je l'ai dit, c'est en fait des festivités qui durent tout le mois, des animations, des décors et des expositions vont rester tout le mois, mais il y a un autre moment phare pour ce mois de festivités de Noël au château d'Angers, plutôt destiné aux jeunes familles.
Oui, pendant les vacances, du 27 au 30 décembre, on proposera donc dans le logis du gouverneur, bien au chaud, des spectacles pour les familles et les enfants. On a même des spectacles qu'on peut suivre avec ses enfants à partir de 6 mois, donc avec différentes compagnies comme le Théâtre des 7 lieux par exemple, qui vont nous proposer des spectacles de 20 à 45 minutes, toujours autour de ce thème de la magie et de la sorcellerie.
Emma Fontenot, merci.
Alors,
merci beaucoup.
Pour découvrir les propositions de ces festivités de Noël et surtout organiser sa venue, vous l'avez compris, il faut réserver. Rendez-vous sur le site du Château d'Angers.
Le patriarche du patrimoine.
Et ça, c'est Dominique. Alors, la statue du roi René, vous ne pouvez pas la rater à Angers en remontant la rue le long du château. Elle est au centre d'un grand projet de la ville d'Angers avec le réaménagement de la place du château et de la place de l'Académie devant l'église Saint-Lô. L'occasion pour vous, Dominique, de nous rappeler qui est le roi René.
Et oui, car pour entrer dans le débat, mieux vaut être parfaitement informé. Alors, qui est le roi René ? Il est né à Angers en 1409, il est mort à Aix-en-Provence à 71 ans. Il fait partie de la famille royale, c'est l'oncle de Louis XI et il participe très activement à l'épopée de Jeanne d'Arc. Il est à la fois duc de Lorraine, duc d'Anjou et comte de Provence. Il est amoureux des arts, de la culture artistique et littéraire, mais aussi de l'architecture. On lui doit notamment à Angers la construction du châtelet du château, dont nous venons de parler, ainsi que de la galerie nord qui prolonge la chapelle. Mais il est aussi le commanditaire des châteaux de Saumur, de Beaugés, de Launay à Villebernier et du manoir de la Ménitrée. Car bien sûr, au Moyen-Âge, la propriété foncière, c'est l'élément essentiel du système féodal. Pas de terre sans seigneur et pas de seigneur sans terre. Le roi René reçoit donc, par mariage ou héritage, de vastes territoires quelquefois assez lointains. C'est bien sûr l'Anjou, mais c'est aussi la Lorraine, Naples et la Sicile, la province de Barcelone, l'Aragon, la Provence. Et le roi, il aime la fête, la musique, les tournois.
Et peut-être les femmes d'ailleurs.
Peut-être aussi, bien sûr. Il est aussi reconnu comme le mécène le plus curieux, le plus original de la fin du Moyen-Âge. Il enrichit les bibliothèques, il entretient une cour littéraire et savante et compose lui-même quelques romans courtois et de chevalerie.
Alors parlons un petit peu de la statue, Dominique.
Eh bien, cette statue est la première installée dans la ville d'Angers, 1853, au pied du château, en raison bien sûr des liens qu'entretenait le roi avec sa demeure. Et c'est avec beaucoup de retard, 30 ans après celle édifiée par la ville d'Aix-en-Provence, là où le roi est mort. Et en réalité, c'est surtout grâce à Théodore de Quatre-Barbes, le commanditaire qui a financé seul la réalisation de l'ouvrage. Le comte Théodore de Quatre-Barbes, il est député de Cholet, c'est aussi un grand spécialiste de l'histoire du roi René, et il est donc passionné du Moyen-Âge. Il fait d'ailleurs construire à Chanzeau, au sud d'Angers, son château familial dans un style néo-gothique troubadour.
Alors, elle est comment cette statue, Dominique ?
Eh bien, le bon roi René, comme on l'a souvent appelé, est représenté sous les traits d'un jeune chevalier. Il porte au cou le collier de l'ordre du Croissant qu'il a fondé. Le socle de la statue est orné de 12 statuettes qui incarnent l'histoire de l'Anjou, et en particulier celle de sa famille, avec sa première épouse, Isabelle de Lorraine, sa seconde épouse, Jeanne de Laval, et puis sa fille, Marguerite d'Anjou. La statue et son socle sont posés sur un quadruple emmarchement circulaire fermé par une grille, elle-même aussi circulaire, à barreaux.
C'est quoi un barreaudage, vous
avez Un barreaudage, c'est un ensemble de flèches, de barreaux, placés verticalement les uns à côté des autres. Et ces barreaux sont surmontés de flèches dorées. L'intérêt du site, c'est que vous regardiez la statue de face, de dos ou de profil, elle se détache toujours dans un ciel au-dessus des avenues qui aboutissent au carrefour.
Et elle est de qui, cette sculpture ?
Eh bien, c'est l'œuvre de l'artiste Pierre-Jean David, dit David d'Angers. Il est né à Angers, bien sûr, 1788, il est mort à Paris. Il est élève dans sa ville. À l'âge de 20 ans, il sculpte les ornements pour l'Arc de Triomphe du Carrousel à Paris. À 23 ans, il est Grand Prix de Rome, il part à l'Académie de France, à Rome. À son retour, il est déjà très connu, on lui confie le Grand Condé pour la cour d'honneur du château de Versailles et surtout le fronton du Panthéon à Paris. À 38 ans, il est membre de l'Institut, professeur à l'École des Beaux-Arts. À 60 ans, il est représentant du peuple pour le département du Maine-et-Loire. Il entre à l'Assemblée nationale et siège dans le groupe des Républicains. Mais à 65 ans, il quitte la France et se réfugie en Grèce pour des raisons politiques.
Alors, est-ce que vous pouvez citer encore quelques-unes de ses œuvres ?
Bien sûr, vous avez compris que c'est déjà un grand personnage. Au cours de sa vie, il va produire de très très nombreuses œuvres pour la France entière, à la fois statues mais aussi bustes et médaillons. Le roi René à Aix-en-Provence, cour Mirabeau, je viens d'en parler. L'énorme statue pour le général Bonchamp dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, sur les bords de la Loire. La statue de Barat, soldat républicain tué pendant la guerre de Vendée. Mais aussi, pour Strasbourg, la statue de Gutenberg. Pour Dunkerque, la grande statue de Jean Bart, celle de Victor Hugo et de Fénelon, pour d'autres villes en France. Et puis des bustes de personnes de la médecine, surtout Bichat, Ambroise Paré, des intellectuels, Balzac, Paganini, l'astronome Arago, et puis des médaillons de Condorcet, Georges Sand. Et on comprend donc que ce grand personnage méritait de trouver à Angers un lieu qui permette d'accueillir toutes les œuvres qu'il a pu réaliser. Et notamment, Angers a reçu du vivant de l'artiste l'ensemble de ses esquisses en plâtre et donc permis la création d'une première galerie au musée dès 1839.
Oui, on a effectivement un magnifique musée rue Toussaint.
Depuis cette première galerie, on en a effectivement réalisé une seconde. Elle s'est installée aujourd'hui à l'intérieur des murs restaurés de l'ancienne abbatiale Toussaint. Et on a profité de l'absence de charpente et de couverture des ruines de cette abbatiale pour équiper celle-ci d'une grande verrière qui permet de restituer à l'intérieur du musée un éclairage naturel puisque la lumière vient de manière zénitale et plonge sur les statues.
C'est tout à fait magnifique.
Eh bien, j'espère que toutes ces explications vous auront permis de comprendre les grands débats qui s'ouvrent aujourd'hui sur ces projets de réaménagement aux abords de la statue. Elle est incontestablement l'emblème de la ville.
Mais alors, c'est quoi ces projets exactement ?
Alors, certains ont parlé d'éboulonnage. C'est un mot qui est très très à la mode, mais déboulonnage, ça signifie essentiellement dépose et remisage d'une statue. Je pense que personne n'imagine que cette statue puisse disparaître de la ville d'Angers.
Oui, si on l'a déplacée, Dominique, quand même, jusqu'ici, c'est un symbole. Mettons-la même sur le côté, on ne la voit plus. Moi, la première fois que je suis arrivée à Angers, on rentre quand même facilement par cette avenue, on voit tout de suite le roi René. Est-ce que vous ne pensez pas que de la mettre sur le côté ou à un autre endroit et puis au milieu de la circulation, ce serait un peu casser ce symbole ?
Eh bien, c'est exactement au cœur des débats qui sont menés actuellement par les élus de la ville d'Angers. Il est évident que son déplacement pose d'énormes problèmes, mais il présenterait sûrement aussi quelques avantages. Donc, les élus de la ville d'Angers sont en train d'étudier le pourquoi et le comment d'un éventuel déplacement. Mais même ce déplacement n'est pas encore figé, obligatoire. Il est possible qu'elle reste là. Ça posera des problèmes de circulation. Il y a aussi des ingénieurs de la circulation qui sont mêlés à ces débats et qui vont aussi proposer...
De la déplacer pour fluidifier. Est-ce que la statue souffre d'être au milieu de la circulation ? Est-ce qu'il a un cancer du poumon ? Est-ce que ça l'abîme ?
Non, je crois que la statue est bien solide. Elle est bien solide. Il n'y a que la dorure des flèches qui a disparu. Mais la statue est bien solide, elle est en bronze. Elle est posée sur un socle en pierre dure. Donc elle est, si je puis dire, inaltérable.
Alors cette statue, pour moi, c'est vraiment un point de repère. J'habite Angers depuis 82. Je me dis, enlever un point de repère en ce moment, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire ? Et je crains quand même que qu'on commence à parler de la déplacer, c'est un peu pour nous préparer.
C'est déjà acté, peut-être.
C'est pour ça que beaucoup de personnes ont réagi à cette idée de déplacement. Mais pour avoir participé à quelques réunions publiques organisées par la ville d'Angers, j'espère que j'ai bien compris le message de monsieur le maire d'Angers qui ne propose pas obligatoirement son déplacement.
On nous prépare quand même.
Écoutez, on nous prépare. Le déplacement, il peut être excessif, il peut être raisonnable. Maintenant, c'est à l'issue de l'ensemble de ces études que le maire définira l'emplacement qui lui paraît être le plus convenable.
Bon, débat à faire. Moi, je vote pour le maintien des traces de notre histoire et de notre passé.
Voilà. Eh bien, je vous invite à participer aux prochaines réunions publiques qui auront lieu sur le sujet.
Merci. Mais gros suspense donc sur cette statue emblématique, Dominique. Vous nous tiendrez au courant sur les décisions et puis au fil du temps.
Voilà. Bien sûr, je serai ravi d'en reparler à nouveau une fois que le projet aura été figé.
On termine avec Cécile. Vous faites quoi, vous, à l'heure du déjeuner ?
Eh bien, pourquoi ne pas profiter de cette pause pour se ressourcer, se cultiver, ouvrir ses horizons ? Il y a plein d'idées possibles, on en trouvera toute l'année. Et on commence aujourd'hui avec l'Université catholique de l'Ouest qui propose les midis libres. Alors, les midis libres, c'est quoi ? Ce sont des conférences, des rencontres, des échanges. C'est toujours à 12h30. En direct ou en zoom, selon les circonstances. Il y a d'abord les jeudis du cinéma, ça c'est pour découvrir ou redécouvrir des pépites. Le prochain aura lieu le 20 janvier et sera consacré au festival Premier Plan. Et il y a aussi Lisez pour vivre. Alors Lisez pour vivre, j'adore. Le principe, un thème est donné et les lecteurs qui le souhaitent viennent et présentent leur coup de cœur littéraire. C'est pas forcément un livre récent. On peut juste assister sans venir apporter des livres et échanger sur les livres, poser des questions et on peut préparer des fiches sur des livres qu'on a adorés. C'est génial parce qu'on découvre des trésors et ça donne vraiment envie de se plonger ou de se replonger dans des livres. Lisez pour vivre est animé par Anne Proutot, qui est maître de conférences à l'UCO en littérature, et Camille Neveu, responsable du rayon littéraire à l'ABU de Lettres. Ça a lieu à l'atelier de l'ABU de Lettres de la Cato, et pour y participer, il faut s'inscrire pour avoir un lien et tout le programme des Midis Libres, donc il faut envoyer un mail à service.culturel@uco.fr. Et vous me direz, quand il n'y a pas les Midis Libres de la Cato, eh bien il reste beaucoup de galeries d'art à Angers qui sont ouvertes. Aujourd'hui, juste vous en citer une, One Way, qui est une galerie d'art qui est rue des Lys à Angers. C'est pas mal parce qu'il y a un lieu d'exposition plus permanente, il y a une cave en sous-sol où il y a des expositions temporaires, et puis puisque c'est l'heure du déj, vous avez un petit resto, vous avez des bocaux au fond de la cour, c'est très sympa. Ils font aussi, pour ceux qui adorent, des after-work. Donc voilà un moment pour aller voir une galerie d'art, découvrir des œuvres à Angers.
Merci Cécile. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission de Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous pour la rediffusion d'émission le mardi à 19h, mais sachez que nous serons de retour jeudi 16 décembre prochain avec au programme Fontevraud. À très bientôt et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast ou nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.